ainsi qu'en présence de membres du collectif Urgente Notre Police Assassine et du collectif Justice et Vérité pour Alice Diri. Le 17 octobre, à 8h du matin, rue des Martyrs au Minguette, à Vénissieux, on vous appelle à rejoindre la marche pour l'égalité et contre le racisme. À 18h, rendez-vous place du Pont à la Guillotière, où se tiendra un rassemblement en commémoration du massacre du 17 octobre 61. Enfin, le 31 octobre à Paris, rejoignons la marche de la dignité et contre le racisme, organisée par le collectif MAFED, Marche des femmes pour la dignité.
Comme une soupe, sous comme une barrique. Notre-Dame est vierge, même si elle est à tout le monde, et malgré son penchant pour les cierges. Oh. À l'heure où les gardes lui baillent, le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit dans les gogues du diable. Alors paf les gargouilles sur les premières grenouilles, sentant de bénitier bien plus maître que leurs pieds, qui ne fut jamais pris au pas de mauvais plis dans leur lit refroidi. Tombeau des vieilles filles, cachot de la vertu, pourtant pas de ciel en vue. Surtout pas de septième pour ces corps en carême, au cœur empaillé, au cul embastillé, à l'abri des bascules, et à leur grande âme qui est toute minuscule, ne connaîtront jamais ni la grâce ni l'air, pas ce matinée. Est-ce pendant que Paris, Paris sous, Paris, Paris, Paris sous, en dessous de tout, dessous par-dessus les ponts. Que la scène est jolie, ne serait-ce Morimont qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne par le fond, inhumant dans l'oubli. Une scène tuerie, c'est paraît-il légal, les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. Brave policière horde de coups et de sang ivre, qui eurent carte et nuit blanche pour leur apprendre à vivre. À ces rats de souche pas franche, qu'un sang impur et noir, à preuve de caniveau, et on leur fit la peau avant de perdre la mémoire. Les pendants s'enrager aux fenêtres consentantes, et en passant soit dit, qui ne dit mot acquiesce, purent pourtant résonner de la chaussée sanglante, jusque dans les Aurès, leur prise ensevelie sous la froide chaux vive d'une pire indifférence, accompagnée de vives, les boules cassées, la France.
Tu cherches des problèmes? On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bois de Pandore, boîte noire et caisse d'or, mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement, sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants, parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort, le vrai bug, le fort accord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image, le plus parfait des parfaits, camouflage, le trompe-l'œil est l'exacte réplique au carbone 14, certifié authentique. Mon 20 mesures cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre et des territoires libérés s'inventent. Au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les cleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeuristes de la radio Rebelle Radio Canu, sur le 102.2 de la bande FM ou sur internet radiocanu.org. Ah oui, ça, il va falloir s'y habituer, je risque de tousser beaucoup ce soir. Donc il est 21h, passé de 2 minutes, c'est ce qui veut dire que c'est l'émission Angle Mort qui débute, comme à peu près un dimanche sur deux. Entre 21h et 22h, donc émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Je me suis permis d'ailleurs de prendre un peu plus tôt l'antenne, couper la bande continue, en mettant un peu de musique. Vous avez pu entendre Combat Womba avant le lancement donc du jingle, de notre jingle, donc Combat Womba avec le titre Human Shield. Et ensuite on avait aussi La Tordue avec Paris Octobre 61. Et entre ces deux titres, on avait un jingle pour annoncer quelques événements autour d'une marche de la dignité contre le racisme qui aura lieu donc en octobre, avec notamment donc le vendredi 16 octobre à 20h à l'atelier des Canulars dans le 7e arrondissement de Lyon, une soirée débat autour des crimes sécuritaires et des violences policières, avec l'intervention du collectif Angle Mort qui milite autour de la question de la justice, de l'enfermement et des méthodes policières. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que nous on n'a pas de rapport hein, avec ce collectif qui a le même nom que nous. On a, voilà, c'était pas lié à ce collectif quand on a décidé de choisir de donner comme titre à notre émission le titre Angle Mort. Il y aura aussi lors de cette soirée débat du vendredi 16 octobre Mathieu Rigouste, sociologue et militant anti-sécuritaire, et un membre du collectif Urgence Notre Police Assassine et du collectif Justice et Vérité pour Ali Ziri. Ensuite, le 17 octobre, le lendemain à 8h du matin, rue des Martyrs, Romain Guette à Vénissieux, on vous appelle à rejoindre la marche pour l'égalité contre le racisme. À 18h le même jour, rendez-vous place du Pont à la Guillotière, où se tiendra un rassemblement en commémoration du massacre du 17 octobre 61, d'où le fait que j'ai passé le titre de la tour du Paris octobre 61. Enfin, 31 octobre, à Paris, on invite à rejoindre la marche de la dignité contre le racisme organisée par le collectif MAFED, Marche des femmes pour la dignité. Voilà, donc Excusez-moi. Donc ce soir, il ne sera pas question de ça, encore que c'est pas très très loin, puisqu'on va diffuser une intervention d'une sociologue ou politiste, Vanessa Codaccioni, qui est maîtresse de conférence à l'université Paris 8, au département de sciences politiques, et qui est l'auteur notamment de Punir les opposants, PCF et procès politique de 1947 à 1962, un livre qui est paru chez CNRS Éditions en 2013. Et donc son intervention s'appuiera en partie sur ce livre, Punir les opposants, donc qui analyse les procès politiques qui ont été faits du PCF donc pendant la guerre froide, hein, entre 47 et 62, donc aussi la guerre froide et la guerre d'Algérie. L'intervention là qu'on diffuse est titrée Punir les opposants, la répression étatique contre l'extrême gauche de 1947 à 1973, c'est-à-dire qu'il va être question plus généralement. Enfin, disons que l'histoire va s'appuyer non pas justement là jusqu'à 62, bon sang j'y arrive pas, mais jusqu'à 73. Et ça va traiter plus spécifiquement de la répression étatique donc contre l'extrême gauche. Donc on peut retrouver la vidéo de cette intervention sur c'est les films de l'an 2 qui ont fait ça. Elle date du 4 février 2015, en tout cas la vidéo, je sais pas l'intervention, mais donc c'est encore assez récent. Vu que l'intervention était très longue, moi j'ai coupé une partie importante hein, de celle-ci, notamment donc le deuxième point qui présente par un survol historique comment s'est manifestée la répression de l'extrême gauche entre 47 et 73, donc en distinguant trois cycles. D'abord la criminalisation des communistes entre 47 et 52, c'est-à-dire le plus fort de la ce qu'on appelle la guerre froide. Ensuite, la guerre d'Algérie de 55 à 62. Et enfin, il est question, dans ce passage que j'ai coupé, des années, ce qu'on pourrait appeler les années 68, c'est-à-dire autour de mai 68 et les années ultérieures. Bon, il y a des choses intéressantes, du coup, dans la partie que j'ai coupée. Hein. Par exemple, il est question des stratégies de la direction du PCF au plus fort de la guerre froide qui vont, d'une certaine manière, provoquer la répression et aller au procès pour s'en servir d'une tribune, en fait, servir du procès politique comme une tribune pour défendre leur cause. Des choses intéressantes sur les effets de radicalisation, par exemple sur les profits symboliques que certains réprimés, notamment des jeunes, vont pouvoir retirer de certaines formes de répression. En tout cas, que ça va les encourager, ça va les attacher souvent à l'organisation ou à la cause. Mais aussi, à l'inverse, dans d'autres situations, on peut observer des effets de déradicalisation ou de désorganisation. Ce qui est notamment le cas du PCF après la manifestation Ridway en 52, qui se trouve quand même profondément désorganisée. Il y a des choses aussi intéressantes sur le fait qu'il est noté que la répression de l'extrême gauche va toucher plus encore les militants quand ils sont non nationaux. Donc, ça renvoie tout un éventail de répression type assignation à résidence, expulsion, etc. On a des choses aussi intéressantes autour de ces années 68 où Vanessa Codaccioni note qu'il y a assez peu de procès politiques parce que finalement d'un côté il y a une volonté d'apaisement hein, de la part de certains responsables, pas tous, parce qu'on en a d'autres qui vont tenir une position de fermeté comme Marcelin, le ministre de l'Intérieur. Donc volonté d'apaisement en fait après 68 pour pas renforcer le cycle répression qui s'ensuit d'une manif de solidarité et de nouvelles répressions, de nouvelles manifs de solidarité qui étaient un peu à l'origine des événements de 68 et donc on a envie d'apaiser pour éviter que ça reprenne. Et la deuxième raison, elle nous dit que bah, c'est aussi que les militants sont pas connus, les militants d'extrême gauche qui sont concernés, contrairement notamment aux communistes d'après-guerre. Et donc on a des arrestations nombreuses qui vont servir à récolter des renseignements, à ficher, à mettre en réseau, etc. Mais finalement peu de procès politiques parce qu'on a aussi peu d'informations et puis parce que donc on veut apaiser à ce moment-là. Voilà donc quelque chose, des petites choses intéressantes qui du coup ne seront pas dans cette intervention. Moi j'ai gardé que on va dire la première partie et la troisième partie. Je précise aussi avant de la lancer que donc c'est C'est une intervention dans un cadre universitaire. L'idée n'est pas de faire une dénonciation de la répression politique qu'on pourrait faire par ailleurs. Mais voilà, donc c'est pas. Vous étonnez pas s'il n'y a pas une dénonciation ferme et dure ici, là, de la répression étatique contre l'extrême gauche. L'idée est plutôt ici de comprendre comment elle a fonctionné. Après, nous, en tant que gauchistes et autres révolutionnaires, on peut justement s'en servir de cette réflexion pour voir comment, des moments, inverser le rapport de force de cette répression. Voilà un peu dans dans l'idée dans laquelle je me suis dit que ça pouvait être intéressant de diffuser cette intervention. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là pour lancer cette intervention. À la fin de l'émission, on fera aussi une petite annonce pour une conférence débat qui aura lieu à la Griffe, donc restez avec nous. Mais je ne veux pas prendre plus de retard, là je lance l'intervention de Vanessa Codaccioni, donc maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département de sciences politiques. Vous écoutez Radio Canu, émission Angle Mort.
Ce dont je vais parler aujourd'hui est au croisement de deux travaux, de deux recherches que je mène depuis quelque temps. Donc la première recherche était sur les procès politiques qui ont touché le Parti communiste français pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, et qui était ma thèse de doctorat, donc qui a donné lieu à cette publication. Et puis une seconde recherche en cours sur la justice d'exception et la généalogie de la lutte antiterroriste. Et donc cette intervention aujourd'hui, elle est au croisement de ces deux recherches, c'est une synthèse un petit peu de ces deux recherches, et c'est aussi l'occasion pour moi de faire un bilan sur ce que j'analyse et qui me préoccupe depuis plusieurs années, à savoir la répression politique dans un régime démocratique. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, je vais essayer de définir ce qu'on peut entendre par répression politique. Dans un second temps, peut-être malheureusement de manière brève, je vais revenir sur comment cette répression politique, elle s'est incarnée en France contre l'extrême gauche de 1947 à 1973. Et dans un dernier temps, je vais essayer de dégager les grands traits de cette lutte étatique contre la gauche radicale et illégaliste. Et j'essaierai de voir ce que ça nous dit de manière plus générale de la répression politique. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est la répression politique? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender? On peut considérer qu'avec la guerre, la répression politique est l'une des expressions les plus visibles du monopole étatique de la violence physique légitime. On peut d'ailleurs considérer que la répression politique est une forme de guerre, une guerre intérieure, entre les tenants du pouvoir, qui veulent punir toute transgression de la loi, et surtout dans le cas de l'extrême gauche, tout trouble à l'ordre public, et de l'autre côté, des individus ou des groupes qui prennent pour cible l'État. Cette guerre intérieure, menée contre une partie de la population, elle est d'autant plus dure, d'autant plus radicale et d'autant plus violente qu'elle va viser ou qu'elle va s'attaquer à des groupements, à des mouvements, à des partis qui entendent concurrencer ce monopole de la violence et qui, dans leur discours tout au moins, veulent renverser l'État ou imposer une nouvelle forme d'État. C'est la raison pour laquelle, en France, mais je crois qu'on peut généraliser le propos, les militants d'extrême gauche sont très rarement punis, en tout cas à l'époque, pour des crimes et des délits de droit commun, mais pour des crimes et des délits politiques. Le sabotage, le complot, la démoralisation de l'armée et de la nation, etc. Ce qu'on appelle à l'époque, ça existe toujours mais ça a un petit peu évolué, les atteintes à la sûreté de l'État, c'est-à-dire les atteintes à la chose publique, à son existence, à ses biens, à ses institutions, à ses agents. Donc les militants d'extrême gauche sont le plus souvent inculpés, punis pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est la raison pour laquelle la répression politique, elle peut être envisagée comme une double entreprise de criminalisation. La répression politique et criminalisation, je reviendrai sur tout ça, parce qu'elle vise à transformer des actes militants, des gestes militants, en crimes et en délits politiques. C'est la criminalisation dans son sens le plus étroit. Mais si la répression politique est criminalisation, c'est aussi qu'elle vise à imposer une interprétation spécifique, celle de l'État, à la contestation politique. Par la répression politique, la contestation politique devient une entreprise subversive destinée à mettre en péril l'existence de l'État. Et chaque action collective, chaque mouvement, chaque manifestation de l'extrême gauche en France va être analysée précisément comme une entreprise subversive destinée à mettre en péril l'existence de l'État. Aussi, si la répression politique, elle est l'expression de ce pouvoir de coercition de l'État, elle est aussi un moyen de renforcer la ligne de partage entre ceux qui détiennent ce monopole et ceux qui en sont dépourvus, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, mais aussi entre les tenants, les défenseurs d'un ordre politique particulier et ceux qui le défient ou ceux qui le contestent. Autrement dit, la répression, évidemment, politique, elle n'a pas qu'une fonction punitive, puisqu'elle est aussi utilisée à des fins politiques pour renforcer des rapports de domination. La théorie marxiste de l'État, et Marx lui-même, a insisté sur ce caractère coercitif, violent, policier, répressif de l'État. On peut citer Marx, je crois que c'est le lieu. Dans la guerre civile en France, je le cite, « Au fur et à mesure que le progrès de l'industrie moderne se développait, élargissait, intensifiait l'antagonisme de classe entre le capital et le travail, le pouvoir d'État prenait de plus en plus le caractère d'un pouvoir public organisé aux fins d'asservissement social, d'un appareil de domination d'une classe. Après chaque révolution qui marque un progrès de lutte des classes, le caractère purement répressif du pouvoir d'État apparaît de façon de plus en plus ouverte. Pour les marxistes, l'État capitaliste et bourgeois se sert de la police, des lois, des juges, mais aussi de l'armée, pour imposer une domination de classe, celle de la bourgeoisie, et puis, surtout, pour imposer l'exploitation capitaliste. Alors, cette théorie marxiste de l'État répressif, c'est précisément celle qui va être appropriée par l'extrême gauche en France. Et à chaque fois que l'extrême gauche va être réprimée, elle va analyser cette répression au prisme de cette théorie marxiste de l'État. Celle-ci, cette théorie, elle est prolongée au milieu du XXe siècle par d'autres théoriciens. Et là, je pense à quelqu'un qui est un théoricien marxiste du droit, qui s'appelle Otto Kirchheimer, et qui a travaillé sur la justice politique et notamment sur les procès politiques, ce qui m'intéresse à plus d'un titre, et qui montre que chaque régime politique a ses ennemis politiques, ou que chaque régime crée ses ennemis aussi, en fonction du contexte, des ennemis politiques peuvent être créés, et que dans ce cadre-là, la répression politique, elle a précisément et d'autant plus pour objectif de préserver des positions de pouvoir dominante et existante. Alors, rapporté à une analyse plus sociologique ou plus socio-historique, comme j'essaie de le faire, on peut considérer que la répression, elle est un moyen de punir des illégalismes politiques, de sanctionner des illégalismes politiques. C'est aussi un moyen d'éliminer l'opposition, l'opposition interne, et donc de clairement distinguer une élite au pouvoir et des contestataires qui sont marginalisés. Mais aussi, et je vais y revenir, on peut considérer que la répression politique, elle est une entreprise de préservation ou une opération de préservation des règles et des normes du champ politique. Le légalisme, le pacifisme, le respect de l'autorité de l'État. Alors concrètement, cette répression, comment elle s'est manifestée en France de 1947 à 1973 ? Je précise tout de suite que cette chronologie, elle est un peu arbitraire. J'aurais pu choisir d'autres dates. Et pourtant, je l'ai choisie précisément pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette période, c'est une période où l'ensemble de la gauche non gouvernementale peut et est surcriminalisée. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette chronologie, c'est que chacune de ces deux dates, 1947-1973, il me semble que chacune d'entre elles nous dit quelque chose sur les modalités concrètes de la répression, sur comment elle s'est manifestée, mais aussi sur ses effets, et en particulier sur ses effets de déradicalisation militante. Pour rappel, 1947, c'est l'essor d'un nouvel anticolonialisme en lien avec la guerre d'Indochine, C'est aussi le tout début de la période dure de guerre froide. Et en France, ce sont les grandes grèves de l'hiver 47. Et ces grandes grèves, elles vont entraîner l'adoption d'une série de mesures très répressives contre la CGT, contre le mouvement communiste. J'en cite quelques-unes. La plus importante, bien évidemment, c'est l'exclusion des ministres communistes du gouvernement en mai 47. Mais il y a aussi des milliers d'arrestations, des milliers de licenciements. Il y a un redéploiement inédit des forces du maintien de l'ordre, et en particulier des forces de police, mais aussi de l'armée. Et cette politique de maintien de l'ordre, elle aboutit à deux morts en 47. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire quelque chose qui me semble important. La politique du maintien de l'ordre en France en 47 et 48, contre la CGT et contre le Parti communiste, fait le coût humain le plus important, 9 morts en moins d'un an, le coût humain le plus important depuis le début du XXe siècle, hormis la période de février 34. C'est pour dire à quel point les affrontements entre les communistes et l'État sont extrêmement violents, brutaux et meurtriers. 1973, l'autre date que j'ai choisie, il y a deux faits qui peuvent retenir notre attention, qui ne sont pas de la même nature, mais qui disent aussi quelque chose de la répression politique. 1973, c'est la dissolution de la Ligue communiste. Et de nouvelles poursuites qui sont engagées contre Alain Krivine. Alain Krivine qui est surcriminalisé depuis le début de la guerre d'Algérie, tout au moins. Il est l'objet de multiples et multiples condamnations judiciaires. 1973, c'est aussi l'autodissolution de l'organisation maoïste, la gauche prolétarienne. Un an après la mort de Pierre Auvernet, Pierre Auvernet, on le sait, ce militant maoïste qui a été tué par le vigile de Renault, Jean-Antoine Tramoni, lui-même abattu quelques années plus tard par des membres des NAPAP, les noyaux armés pour l'autonomie populaire. Et ce qui me semble, l'année 73, elle me semble marquer une rupture dans la répression politique, dans l'histoire de la répression politique, parce qu'à partir de cette date, la répression politique, elle va changer. Elle va se focaliser déjà sur d'autres acteurs. L'extrême gauche ne constituera plus tellement la principale cible de la répression. Bien évidemment, il y aura toujours répression contre l'extrême gauche. Mais les principales cibles de la répression, ce sera plutôt les mouvements autonomistes, corse, basque et breton, qui vont concentrer l'essentiel des forces répressives. Et en ce qui concerne l'extrême gauche, il me semble que, à partir de l'autodissolution de la gauche prolétarienne, on peut en discuter, mais il me semble qu'à partir de 73, la répression, elle va se focaliser sur des groupes plus restreints, plus radicalisés, plus marginaux, voire clandestins. Et là, je pense à trois groupes en particulier, les NAPAP, dont je viens de parler, les GARI, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, et bien sûr, Action directe. Et c'est pas un hasard, à mon avis, si la première inculpation de Jean-Marc Rouillant date de 1973. Il me semble qu'on assiste là à l'émergence de nouveaux acteurs, plus radicaux. Si on lit les mémoires de Jean-Marc Rouillant, on voit que ce sont des militants qui sont prêts pour la prison presque avant d'avoir commencé à militer. En tout cas, la répression, elle va se focaliser sur ces groupes-là. Elle sera moins large, moins diffuse.
J'entends des cris, j'entends des voix, le fascisme ne passera pas.
Le fascisme ne passera pas.
Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Un jour de manif à Paris. Un jeudi noir, il faisait froid, les journaux titraient Algérie. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? La nuit tombée, ils étaient là. La manif était interdite pendant la guerre, pas de politique. C'est quoi? Pour des militants ouvriers. Que ce soit ici ou là-bas, contre la guerre, faut résister. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? On était loin de la bavure. La police avait tous les droits, carte blanche de la préfecture. Qui saigne, les cris, les voix hurlent encore, les larmes des lacrymogènes, trois filles et six garçons sont morts. Charonne, c'est un métro, c'est qui? Quand j'entends parler de Charonne, c'est la Palestine qui résonne, et l'Algérie, celle d'aujourd'hui.
Point, quels sont les grands traits de cette répression? Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de cette séquence que je vous ai rappelée trop rapidement? La première, c'est qu'en régime démocratique, la répression politique, elle est toujours légale. C'est-à-dire qu'elle est toujours couverte par un ensemble de lois et un ensemble de droits. Et surtout, elle est toujours officiellement présentée comme réactive, c'est-à-dire comme une réponse à quelque chose que les militants ont fait, à des actes commis par les militants qui vont légitimer l'emploi de la répression ensuite par les gouvernements. Reste à savoir ce que sont ces quelque chose que les militants ont fait. Ça peut être des violences, ça peut être des illégalismes, frapper un policier, lancer un cocktail Molotov dans un commissariat, participer, un groupe commando, bon, ça peut exister. Mais ces quelque chose peuvent être aussi des actes du militantisme protégés par un ensemble de droits. Le droit de manifestation, le droit de réunion, le droit d'association. Et ça peut être encore des appartenances ou des opinions exprimées qui sont réprimées. Autrement dit, la question qui se penche lorsqu'on regarde la répression politique n'est pas de savoir quel crime ou quel délit les militants ont commis. Parce que les crimes et délits, ce sont des constructions étatiques, et plus précisément des constructions politico-juridiques, faites pour réprimer les militants. Ce qui est plus important, c'est de savoir comment l'État, le pouvoir central, parvient à faire de ces actes militants, de ces gestes militants, des crimes. Et plus précisément encore, comment le pouvoir central fait varier la frontière entre le légal et l'illégal pour incriminer le plus grand nombre possible d'opposants. Et là, je vais prendre deux exemples. Parce que cette criminalisation politique, entendue comme l'action de faire crime ou de rendre crime un acte de militantisme, elle est permise au moins par deux mesures qui sont traditionnellement mobilisées contre l'extrême gauche en France, mais aussi plus généralement contre tout opposant. Les lois, bien sûr. Les lois qui créent de nouveaux crimes et délits politiques, et donc qui élargissent le filet pénal dans lequel les militants vont être pris. Je prends deux exemples. Pendant la guerre froide et la guerre d'Indochine, le gouvernement veut réprimer l'antimilitarisme communiste, et notamment ce qu'il appelle les sabotages communistes. Les sabotages sont un crime d'atteinte à la sûreté très grave qui ne peut être réprimé par la loi qu'en temps de guerre. Or, pendant la guerre d'Indochine, nous ne sommes pas en guerre pendant la France. Eh bien, le gouvernement fait voter en 1951 une loi pour pouvoir réprimer les sabotages en temps de paix. Et cette loi, elle va être appliquée à de nombreux militants communistes. Deuxième exemple, juin 70, il y a le vote d'une législation d'exception assez connue, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la loi anti-casseur. La loi anti-casseur, elle introduit une rupture inédite dans la répression politique, puisqu'elle introduit le principe de la responsabilité pénale collective, et notamment la responsabilité collective pécuniaire. Ce qui veut dire que dans une manifestation où il y a des violences, un manifestant qui a commis des violences peut être réprimé pour ces violences, mais aussi tout participant à cette manifestation, même s'il est extérieur à ces violences. Vous participez à une manifestation violente, vous êtes, même si vous n'avez pas commis aucune violence, vous êtes inculpé pour ces violences. C'est le principe de la responsabilité collective. Et là, on voit très bien avec cette loi anti-casseur comment en réalité la législation, elle permet d'augmenter le nombre et la sévérité de la répression à l'ensemble des manifestants. Le Parlement, et donc le pouvoir législatif, n'est pas le seul à pouvoir créer des crimes et délits politiques. L'exécutif en crée aussi beaucoup par le biais de décrets. Ça, c'est donc pour la législation. On voit que cette redéfinition entre ce qui est légal et ce qui est illégal, elle peut passer par la création de nouvelles incriminations qui vont viser des actes particuliers, le sabotage, la violence dans une manifestation. Mais la répression politique contre l'extrême gauche, elle peut aussi passer par une méthode plus radicale de lutte. Une méthode qui ne va pas viser simplement un acte précis, mais qui va criminaliser l'ensemble des actes d'une organisation, ou même qui va criminaliser une organisation tout entière. Cette mesure, c'est la dissolution. La dissolution, c'est une mesure exceptionnelle qui contrevient à la liberté d'association de la loi 1901. La dissolution, elle est d'abord utilisée contre l'extrême droite en 1936, contre le Parti communiste français en 1939, et elle est largement surutilisée pendant toute la période dont je vous ai parlé. 1950, vous avez des organisations satellites du Parti communiste qui sont dissoutes. Je pense par exemple à l'association France-Vietnam, qui est centrale dans l'anticolonialisme contre la guerre d'Indochine. Dissolution. 1955, le Parti communiste algérien est dissous. 1968, ce sont 11 organisations gauchistes qui sont dissoutes. 70, dissolution de la gauche prolétarienne. 73, dissolution de la Ligue communiste. Quel est l'intérêt de dissoudre les organisations d'extrême gauche ? Ce qu'on voit très bien et qui est très frappant quand on regarde les archives, c'est qu'on voit qu'en réalité, malgré la volonté de réprimer l'extrême gauche, souvent le pouvoir central n'y arrive pas. Il n'arrive pas à réprimer les militants d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils ne commettent pas des crimes et délits assez graves. Est-ce qu'on peut emprisonner quelqu'un pour 5 ans ou pour 3 ans de prison pour avoir distribué un tract ? Non. Ça arrive, hein. C'est arrivé à des militants communistes pendant la guerre froide, de prendre 5 ans de prison pour une distribution de tracts. Mais c'est extrêmement rare. Comment fait-on pour enfin arrêter ces gens et les condamner ? On dissout leur organisation. On dissout l'organisation, comme ça, ils seront tous passibles de reconstitution de ligue dissoute. Ce que permet la dissolution, c'est de faire qualifier juridiquement des actes du militantisme protégés par la loi, la distribution de tracts, la vente d'un journal, la participation à une manifestation, rentrer dans un local, par exemple, en crime et délit politique, la reconstitution de ligues dissoutes. Ça permet aussi de modifier radicalement le statut politico-juridique des militants, qui passent de quoi ? D'oppositionnel à criminel ou délinquant, attentant à la sûreté de l'État. Donc vous changez complètement même le statut des personnes. Et ces mesures de dissolution, ce sont elles qui permettent les interrogatoires, les arrestations, les procédures judiciaires devant une juridiction d'exception et les procès. Sinon, les militants ne sont pas punissables, pas suffisamment en tout cas. Et donc, on le voit, ce que je voulais dire aussi, c'est que si en théorie, l'exécutif et les magistrats sont contraints par un ensemble de textes, le code pénal, le code de procédure pénale, et qu'en théorie aussi, l'opposition, le militantisme oppositionnel est protégé par un ensemble de droits, en réalité, tout militant peut devenir un criminel ou un délinquant du moment que l'exécutif, aidé de ses magistrats, et notamment du parquet, peut faire de son acte de militantisme un crime ou un délit politique. C'est-à-dire va rendre son militantisme illégal, comme par la loi ou comme par le décret de dissolution. Ce qui est intéressant avec la dissolution aussi, c'est qu'elle montre comment elle permet de partitionner l'espace politique entre les organisations légitimes et les organisations illégitimes, les organisations légales et les organisations illégales. Et donc, comment la dissolution participe au renforcement de la bicatégorisation normée entre ce qu'il est dissible et indicible, faisable et infaisable, tolérable et intolérable en matière d'activisme politique. Ça, c'était le premier enseignement.
Essayez toujours. Comme disait Guillaume le Taciturne, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors essayez.
Appearance and the clothes you wear, call that justice, justice, and fair. a scientist. I never apologize for
deuxième enseignement,
c'est celui de l'ongle vivant.
On a souvent tendance à considérer, à souligner le caractère irrationnel de la répression. C'est incompréhensible, par exemple. C'est ce que l'on dit, c'est ce que soulignent les expressions comme les coups montés, les erreurs judiciaires ou les bavures policières. Et il y a beaucoup de chercheurs qui insistent sur cet aspect affectif de la répression, montrant comment celle-ci, par exemple, peut être une réponse émotionnelle de l'État, de ses agents, à des événements qui se sont produits. Or, l'analyse que j'ai pu mener, comme d'autres, montre qu'en réalité, la répression n'est pas du tout quelque chose d'irrationnel. Au contraire, que la répression, elle est toujours le résultat d'un calcul rationnel de la part des agents de l'État. Un calcul qui prend en compte plusieurs éléments. La force de l'appareil répressif, de quelle force dispose-t-on ? La force des militants qu'il y a à réprimer et le type d'activité qu'ils déploient. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils le font et combien de fois ils le font. Fréquence aussi des activités. Et si la répression politique, elle peut être considérée comme irrationnelle, c'est-à-dire perturbée ou travaillée par des logiques extérieures à l'État. En réalité, c'est du côté du contexte qu'il faut regarder. Si la répression, elle est perturbée, si le calcul répressif est perturbé, c'est en particulier par les contextes de crise politique qui sont contexte de crise politique qui est commun aux trois séquences que je vous ai citées. La crise politique, elle perturbe les acteurs dans leurs calculs. Elle va perturber les contestataires. Je vous l'ai dit, la direction du Parti communiste n'a pas anticipé, a mal anticipé la répression de la manifestation Ridway, mais elle va perturber aussi les agents de l'État. Mais par exemple, si on prend le cas des bavures policières, on sait aujourd'hui que les bavures policières ne relèvent pas du hasard, très rarement, qu'elles ne relèvent pas de l'accident non plus, mais qu'elles sont plutôt induites, inscrites dans un processus de légitimation de la violence physique policière, qu'elles sont induites par des logiques de maintien de l'ordre brutal et meurtrière, et qu'elles sont la réponse, le plus souvent, d'injonction à la répression de la part d'autorités, notamment l'autorité préfectorale. Il y a donc une rationalité des bavures policières, ou en tout cas des morts dans les manifestations. C'est ce que montrent les morts manifestants pendant la guerre froide, mais aussi les morts pendant la guerre d'Algérie, 17 octobre 61, février 62, Charonne. Et là, on peut renvoyer au beau travail, difficile mais important, d'Alain de Verpe, sur Charonne, où il montre précisément comment tout ça est calculé, rationalisé, comment ça peut s'expliquer, et que ce n'est pas incompréhensible, et que ce n'est pas un accident, et que ce n'est pas un hasard. De la même manière, les erreurs judiciaires, ou ce qu'on appelle les coups montés, s'inscrivent toujours dans un contexte de très forte conflictualité entre l'État et ceux qui sont criminalisés. Et là, je vais prendre l'exemple le plus connu, à l'époque, et que je cite souvent, mais il me semble illustratif, c'est le complot des pigeons. J'entends déjà des rires. À la suite de la manifestation Ridway, Jacques Duclos est dans sa voiture avec sa femme et son chauffeur et est arrêté par la police. À l'arrière, la police retrouve deux pigeons morts. Alors, je le dis tout de suite, Jacques Duclos était gourmand et adorait manger des pigeons avec des petits pois. Je ferme la parenthèse. Ces pigeons deviennent immédiatement des pigeons espions à la solde de l'URSS. Autrement dit, des pigeons voyageurs qui feraient le voyage entre l'URSS et le Parti communiste français. Alors ça nous fait rire. Ça a fait rire quelques militants à l'époque, mais en réalité pas trop, parce que c'était extrêmement grave à l'époque, c'est-à-dire que Jacques Duclos a été inculpé de complot, crime extrêmement grave, atteinte à la sûreté de l'État. Et ça a entraîné d'autres inculpations de complot, ces pigeons. Est-ce qu'on peut dire ici qu'il y a irrationalité de la répression politique ? Moi, je dirais plutôt qu'il y a application directe, ici, d'un discours d'État sur la dangerosité du Parti communiste français, application directe d'un discours d'État sur le caractère profondément antinational du PCF et son caractère inféodé à Moscou, et application directe d'une injonction à éliminer cet ennemi intérieur qu'est le communiste comploteur à la solde de l'URSS. Plus généralement, la répression, elle résulte toujours d'un calcul coût-avantage de la part de l'État. Et le processus de criminalisation de l'extrême gauche est, et c'est flagrant quand on regarde les archives, de bout en bout maîtrisé par le pouvoir central et par les magistrats. Et quand on regarde les procès ou les procédures judiciaires, c'est absolument flagrant. Tout est calculé. Quel type d'acte militant veut-on réprimer ? Cet acte militant, à quel crime cela peut correspondre ? Quelle peine est-ce qu'on veut donner aux militants ? Alors, si on veut donner telle peine, on va plutôt utiliser tel article du code pénal. Si on veut telle peine, on va plutôt utiliser cet autre article du code pénal. D'accord. Une fois qu'on a défini l'acte militant, le crime, l'article du code pénal, on va essayer de aussi savoir à qui est-ce qu'on va réprimer. On fait des profils aussi. Et il y a des personnalités à toucher en priorité. Et là, il y a une constante pour l'extrême gauche. Des personnalités à toucher en priorité, ce sont les dirigeants et les cadres. Et ça, on le voit très bien si vous lisez les mémoires de Raymond Marcellin, donc le premier ministre de l'Intérieur, de la période 68 et après. Il dit clairement qu'il faut toucher les têtes. Quel est l'intérêt de toucher en priorité les chefs ? C'est de désorganiser l'organisation, de la déradicaliser, de la perturber. Mais il y a aussi, parfois, des personnalités qui sont intouchables. Et là, je vous lis, par exemple, une note que j'ai retrouvée dans les archives, une note de la DST à propos des événements de mai 68, et notamment à propos, je cite, « du réseau autour de Krivine, qu'il faut réprimer ». Une information pourrait être ouverte en vertu notamment de l'article 86 du Code pénal, le complot. On revient toujours à cette accusation de complot. Si une telle action était approuvée, elle devrait viser à démanteler le réseau en neutralisant les éléments les plus nocifs. Il y aurait lieu toutefois d'éviter de toucher aux dirigeants du type intellectuel de gauche pour que l'opération bénéficie de la faveur de l'opinion et ne se trouve pas hargneusement condamnée par les dirigeants des syndicats ouvriers. Ce qui est étonnant dans cette note-là, moi qui m'a étonnée, c'est qu'on voit comment les services de renseignement, la DST, veut intervenir sur le processus judiciaire lui-même, en se faisant presque juge d'instruction, en disant on peut appliquer tel article du code pénal. L'article de complot, évidemment, c'est pas un hasard, c'est la plus grave. Mais on voit aussi la répression est anticipée dans ses effets. Ne pas heurter l'opinion publique, ne pas heurter les syndicats ouvriers. Et là, il y a quelque chose de très important qu'il faut dire, c'est que cette anticipation de la répression par les agents de l'État, elle bénéficie souvent à l'extrême gauche. Cette anticipation de la répression, elle aboutit le plus souvent à l'obtention de non-lieux ou carrément à l'absence de poursuites judiciaires. On a des traces de ça dans les archives. On voit très bien que les juges d'instruction, par exemple, préfèrent ne pas envoyer les militants en procès, renoncent aux poursuites, donnent des non-lieux, plutôt que de permettre à des militants de faire des grands procès politiques et d'ameuter l'opinion et de créer de grands mouvements de solidarité. Clairement, dans les archives, on va avoir un procès politique, il vaut mieux abandonner les poursuites. Donc l'anticipation de la répression, elle aboutit souvent un apaisement, en tout cas un apaisement au niveau judiciaire, au niveau des procès. Surtout, dans cette maîtrise de la répression de bout en bout de la chaîne pénale par l'État, il y a un moment de ce processus lors duquel l'exécutif, le pouvoir central, peut échouer contre l'extrême gauche et lors duquel il échoue le plus souvent, c'est le moment des verdicts. Parce que, comme l'a rappelé quelqu'un comme Pierre Bourdieu, les magistrats du siège ont toujours une autonomie de choix au moment des verdicts. Et ce fait-là fait que la plupart des grands procès politiques envisagés par l'exécutif contre l'extrême gauche échouent. Soit que les magistrats du siège acquittent les militants, soit que les magistrats du siège donnent des peines beaucoup plus légères que celles qu'aurait voulu le pouvoir central. Ce qui insinue aussi que les gouvernements, dans les cas qu'ils ont surinvesti, ils vont plutôt déférer les militants devant les tribunaux militaires ou devant des juridictions d'exception, c'est-à-dire dans des juridictions où les magistrats sont au service de l'État, plus dépendants au pouvoir central. Et là, on peut dire, comme fait, c'est que les militants les plus réprimés de toute la période que je vous ai citée sont ceux qui l'ont été pendant la guerre froide et la guerre d'Algérie par les tribunaux militaires. Et c'est pas un hasard. Troisième point que je voulais souligner, c'est que la répression, elle est toujours perçue par l'État comme perfectible. C'est-à-dire qu'elle est toujours sous-tendue par un processus de perfectionnement pour améliorer sans cesse son efficacité et son effectivité. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la période que je vous ai citée, il y a une évolution de la lutte contre l'extrême gauche ? Et s'il y a évolution, laquelle ? Eh bien, déjà, on peut rappeler qu'il y a des invariants de la lutte contre l'extrême gauche. Je les cite. La surveillance de l'organisation visée et de ses membres. La création d'officines occultes de renseignement. L'infiltration, dont on n'a pas parlé, mais qui marche en réalité, hein, qui aboutit à de nombreuses procédures judiciaires. Le retournement de militants. L'emploi de la violence par les forces de l'ordre. La militarisation de la répression parfois. Et bien sûr, la surpénalisation des militants par les magistrats, qui se traduit par les arrestations, les perquisitions, les poursuites judiciaires et l'enfermement en prison. Donc il y a des invariants. Mais il y a aussi sans cesse innovation, amélioration, technicisation. Je vous l'ai dit, il y a des lois qui s'entassent, hein, progressivement contre l'extrême gauche. Et donc il y a sans cesse un processus de production, redéfinition des normes juridiques pour améliorer la répression contre les militants. Maintenant, quelque chose dont on a peu parlé, c'est l'amélioration du maintien de l'ordre. Si l'on prend le cas de la guerre froide, on assiste pendant la guerre froide à une technicisation inédite du maintien de l'ordre. C'est la première fois qu'on va employer des engins fumigènes et détonants comme les gaz, mais aussi comme la grenade offensive, qui peut provoquer un état de panique chez les manifestants. Alors, on connaît aujourd'hui les effets de la grenade offensive. Je pense en particulier à ce qui s'est passé à Sivens. Mais cette grenade offensive, elle a déjà fait de nombreux blessés et des morts dans le passé. Et l'un des morts de mai 68 serait mort d'une grenade offensive par ailleurs. Pendant la guerre froide toujours, on va créer une brigade photographique pour photographier, repérer, identifier les militants. Et en mai 68, dans les archives, on le voit, il y a des policiers, des agents de police qui demandent à être équipés d'appareils photographiques avec flash, notamment pour déstabiliser psychologiquement les manifestants. Je vais revenir à ce que ça veut dire, mais en 52 est introduit aussi le bidule, qui est une très longue matraque qui est censée protéger les forces de l'ordre, mais en fait qui permet de fracasser le crâne des militants, et qui est largement utilisé pendant la guerre froide et qui est très utilisé ensuite pendant la guerre d'Algérie par Maurice Papon. Exactement à la même période, la possibilité d'asperger les militants d'une encre indélébile pour pouvoir les repérer et les arrêter après est aussi envisagée par le ministre de l'Intérieur. Tout ça pour dire qu'il y a toujours un imaginaire de la répression ou une imagination de la répression. Tout au moins, il y a toujours des inventions de l'État, de ses agents, pour modifier, renforcer l'arsenal répressif et sécuritaire, et donc pour accroître le nombre d'individus qui vont être cibles de la répression. Ce qui m'amène à mon dernier point, pour finir sur une touche plus positive.
Toujours à l'écoute de Radio Canut, émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. On n'écoutera pas le dernier point de Vanessa Codaccioni dans son intervention punir les opposants, la répression étatique contre l'extrême gauche de 1947 à 1973, puisque j'ai beau couper une grosse partie, visiblement j'ai pas coupé assez, je vois l'heure qui file, il ne reste plus que 6 minutes. Un peu moi-même avant la fin de l'émission, et je veux pas empiéter sur les copains et copines de la causerie. Donc en gros le dernier point renvoie à, pour ça qu'elle dit une note plus positive, à ce qu'elle appelle l'encadrement démocratique de la répression politique, qui fait que des moments ce que le pouvoir central va vouloir faire va être déjoué par que ce soit par la justice, par des manifestations de solidarité, par les intellectuels, etc. Voilà, bon, je le dis très vite, c'est un point assez intéressant. Et si je le coupe, c'est pas parce qu'il est pas intéressant, c'est parce que vraiment on a plus de temps là. Je voulais d'ailleurs aussi profiter du thème un peu de cette émission pour envoyer au feuilleton de Laurent Bordon, un journaliste au Monde, qu'il avait fait sur l'affaire Tarnac. Et qui donne à voir, puisque là il est question de la répression politique contre l'extrême gauche, mais de 47 à 73, et là qui donne à voir des formes, on va dire, un peu plus contemporaines de répression étatique. Des révolutionnaires anticapitalistes par le biais ici donc notamment de procédures antiterroristes, et ce feuilleton je l'ai trouvé vraiment très 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 intéressant sur comment fonctionne l'antiterrorisme en France, et on peut le trouver, si jamais vous n'en avez jamais entendu parler et que ça vous intéresse, on peut le trouver donc sur internet à l'adresse http://tarnac.blog.lemonde.fr, donc tarnac.blog.lemonde.fr. Voilà, et je voulais aussi terminer avec une annonce. On aura une annonce pour un débat qui aura lieu le samedi 17 octobre à 15h à la librairie La Griffe, donc dans le 7e arrondissement de Lyon, dans la rue Griffe, rue Sébastien Griffe. Un débat avec Laurence Thin, qui, si je ne m'abuse, doit être sociologue à Lyon 2, je crois, hein, et qui est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle Le corps reproducteur, et qui a dirigé un numéro de la revue des Cahiers du Genre intitulé Biotechnologie et travail reproducteur. Et donc là, le thème du débat sera la chaîne mondiale du travail reproductif. Voilà, je crois que j'ai tout dit. D'ailleurs, cette conférence débat sera peut-être diffusée, faudra voir, hein, mais il y a un peu ce projet de la rediffuser là sur Angle Mort. Après coup. Voilà, donc on a passé quelques musiques durant cette émission que j'ai pas annoncé, je vais les annoncer maintenant. On a dû entendre qu'est-ce que j'ai passé ? Il y avait la compagnie Joli Môme avec le titre Charonne, issu de l'album Légitime Colère, donc de la chanson française engagée de Saint-Denis. On a eu aussi les Stiff Little Fingers avec Law and Order, punk anglais donc, et à l'instant derrière moi on entend The Soul Jazz Orchestra avec Serve and Protect. Et pour terminer l'émission en beauté et dans le thème, je voulais aussi passer, du coup on n'écoutera pas tout le titre Serve and Protect de Soul Jazz Orchestra, je vais le couper aussi, parce que je voulais passer quand même Abat l'État policier de Dominique Grange. Ça me semble quand même indispensable pour une émission qui parlait de la répression étatique de l'extrême gauche dans les années 40, des années 40 aux années 70. Voilà, c'était Angle Mort sur Radio Canu, et on vous dit sans doute pas la semaine prochaine, mais à la semaine d'après, hein, parce que j'essaie de tenir un rythme d'une émission toutes les deux semaines.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Abat l'État policier, abat l'État policier. vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? Citez-moi une décennie. 70s? C'est quand Michael Jackson était encore noir? Pearl Jam? Allez, on va 10 ans en arrière.
Je le sais, on a plus rebelle des radios radicalistes sans le point d'eau.
20 ans. The Cure.
Et nous pauvres canuts n'avons pas.
Et que ferais-tu sans toutes ces émissions?